Votre conférence est présentement enregistrée. Your conference is being recorded.
Bonjour, puis désolé encore une fois du délai pour la météo. Donc, bienvenue à cet autre forum de discussion. Bon retour du mois d'août pour ceux qui ont pu prendre quelques journées off. La rencontre d'aujourd'hui va porter sur les forums de discussion. C'est Jean Longtemps qui parle, avec France Corbet et Lise Boivin. On va commencer par faire le sacro-saint mise en silence, donc on va vous imposer ça.
Le responsable a activé la mise en silence de votre ligne.
The leader has muted your line.
Donc, vous devriez de retour maintenant. Donc, pour cet atelier sur les compétences et les qualifications du personnel, si vous voulez prendre la parole, évidemment, c'est le DI6, et pour vous remettre en discrétion, c'est étoile 6. On tient aussi à vous rappeler que ceux qui n'ont pas eu l'information et les documents sont aussi disponibles au niveau du site web du forum de discussion sur le site du LSPQ. Donc, sans plus tarder, la mise en contexte de l'atelier d'aujourd'hui rentre encore au niveau des grands aspects ISO. Donc, il y a plusieurs éléments, thèmes qu'on a couverts au cours du mois de juillet. Donc, le personnel, lui, c'est un des éléments de qualité qui est nécessaire dans un système de management de la qualité aux yeux d'ISO. Donc, bon, ça ne marche pas. Au niveau des normes, la norme ISO met beaucoup de responsabilités à ce niveau-là au niveau du directeur du laboratoire, notamment pour s'assurer du nombre suffisant de personnes, donc un élément de quantité au-delà de la qualité, c'est quand même intéressant, donc d'un nombre suffisant de personnes qui ont la formation et les compétences requises pour fournir les prestations de laboratoire à nos clients. Donc, c'est une responsabilité au niveau de la direction. Et l'autre responsabilité qui est attribuée par la norme, c'est que la direction doit mettre en place des programmes de développement professionnel pour le personnel et surtout qu'il y ait l'opportunité de participer, parce que mettre quelque chose disponible sans vraiment le rendre disponible, c'est on répond pas aux besoins. Donc, ces deux éléments-là de qualité, nous, on les décline en 5 grands aspects. On s'est lâché l'os avec une fleur avant les vacances. Donc, des éléments de qualification du personnel, de formation, de maintien des compétences, de contrôle, d'évaluation de la performance et le perfectionnement. Donc, l'atelier d'aujourd'hui va couvrir les 5, on va appeler ça les 5 pétales, là, finalement. Donc, je laisserai France commencer avec la... Non, c'est pas commencé avec la première pétale, la qualification.
Ah oui. Oui, c'est bon, je peux commencer. Au niveau de la qualification du personnel, c'est sûr qu'il faut s'assurer de rencontrer les exigences. Puis, à ce niveau-là, c'est plus d'avoir un dossier où il va y avoir la formation académique, l'expérience de travail, les qualités personnelles, les compétences appropriées au type d'emploi que la personne à laquelle elle va être attitrée. Ensuite, ici, il faut avoir un processus de recrutement qui est établi.
Donc, finalement, au niveau de cet élément-là, clairement, ça ne devrait pas être un problème pour aucun établissement. Le deuxième aspect est celui de la formation du personnel.
C'est ça. La même chose ici. Il y a un point de norme, le 5.1.4, qui vraiment est spécifique à l'accueil du personnel. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir notre programme d'accueil structuré. Puis la plupart du temps, ce programme-là va toucher la santé et sécurité, le SIMZUT confidentialité, le système de gestion de la qualité, les mesures d'urgence, un peu tous les points qui sont plus généraux là, pour le personnel quand on accueille quelqu'un. Puis l'exemple qu'on a au laboratoire, C'est peut-être pas assez gros, là, mais on l'a mis aussi sur le site, le document. Mais on voit vraiment, nous, c'est un document qui est juste une petite liste de certains points. Puis la personne qui est accueillie va se promener un peu partout là, dans le laboratoire pour les différents points à suivre sur, mettons, une période d'une semaine. Fait que c'est un document qu'il faut que ce soit facile, puis après ça, ça va être versé au dossier de l'employé. Par la suite, il y a aussi la formation aux tâches, qui est l'autre point de norme. Ça veut dire qu'après ça, il faut s'assurer que les gens sont formés à la tâche spécifique à laquelle ils doivent faire, à laquelle ils doivent participer. Puis au LSPQ, vous allez voir, on va vous donner des exemples, mais nous, on a fait ça sous forme de profil de formation qui est soit par technique d'analyse, on en a un aussi qui est général, puis aussi, on fait des formations un peu plus spécifiques ou génériques là, par qui sont organisées par un comité de formation. Le point de norme spécifie aussi qu'il faut avoir, il faut faire la revue de l'efficacité de notre programme. C'est sûr que nous, la manière qu'on fonctionne, c'est peut-être pas notre plus grande force, là, mais on a quand même décidé de travailler ce point-là avec les outils qu'on a déjà en place, comme les non-conformités et les actions correctives. Ça veut dire qu'aussitôt qu'on voit que nos non-conformités ou nos actions correctives portent sur la formation, mais on va essayer de voir si notre programme ne pourrait pas être bonifié. La même chose, on va utiliser les audits internes, les audits techniques, puis les résultats qu'on a au niveau des contrôles internes de compétences et contrôles externes de compétences. Fait que c'est des outils qu'on a déjà discutés, puis qui nous servent à voir si on s'enligne de la bonne façon pour notre programme de formation.
Donc, pour le dire autrement, si vous avez une fiche de formation, la formation d'une technicienne, exemple, au banc des urines, si la fiche de formation est la même depuis 10 ans, aux yeux d'ISO, ça peut être un peu suspect parce que normalement, ces formations-là devraient évoluer dans le temps en fonction des non-conformités. Donc, la revue de l'efficacité du programme doit un peu se refléter dans des mises à jour de vos formations.
Ici, vous avez l'exemple, peut-être qu'on pourrait l'avoir un peu plus. On a l'exemple d'un profil de la fiche de formation. C'est simple, c'est facile à utiliser pour le personnel. Puis, celui-là, il est vide. Fait que ce que vous avez comme exemple, c'est vraiment pour n'importe quelle tâche, on va l'utiliser si on n'a pas un profil qui est dédié là, à un banc de travail, etc. Fait que celui-là, il est complètement vide. Puis, on a toute la partie qualification de l'employé, puis des commentaires là, au niveau de qui a approuvé, qui a décidé de qualifier la personne. C'est des documents qui sont importants à avoir sous une forme ou sous une autre, là, mais il faut vraiment être capable de prouver qu'on a documenté la formation de la personne. On en a deux autres exemples, plus au niveau d'un poste de professionnel. Puis celui-là, c'est le même format que celui qu'on vient de vous présenter, sauf qu'il est un peu plus détaillé, puis il y a des tâches un peu plus spécifiques, des descriptions d'étapes là, qu'on a mis. Puis c'est pour vous donner une idée là, de ce qu'on. C'est plus. Ça remonte un petit peu, là. C'est plus. On va voir la personne qui va avoir à prendre connaissance de certains documents, à observer après ça la personne qui fait la technique, après ça elle va exécuter sous observation, puis après ça elle va exécuter, puis on va voir si ses résultats sont, mettons si elle a fait des contrôles de compétences, on va pouvoir voir si elle rencontre les exigences. C'est juste pour vous donner un exemple, on va passer l'autre, on n'a pas besoin, mais on vous a aussi mis sur le site un exemple pour un technicien.
Donc, au niveau des formations, je parle tout comme les qualifications, c'est des éléments qui sont déjà bien contrôlés dans les établissements. Au niveau du maintien des compétences, le laboratoire aux yeux d'ISO doit pouvoir évaluer la compétence de chaque personne. Évidemment, on parle souvent du personnel technique, mais il ne faut pas oublier non plus que toutes les personnes qui travaillent dans le laboratoire, incluant le côté management ou de support, doivent aussi avoir une évaluation de leurs compétences. Donc, un élément ici universel. Et le deuxième, c'est l'intervalle qui est régulier. On ne peut pas faire une compétence une fois, puis pendant 10 ans, on est correct. Il faut vraiment avoir un calendrier. Et au LSPQ, on a différents aspects du maintien de la compétence. Le premier, le titre ici n'est peut-être pas révélateur, là, mais c'est le maintien des compétences dans le cas des absences temporaires. Un exemple, une technologiste qui part en congé de maternité et qui revient. Nous ici, on a une façon assez standardisée de s'assurer de sa compétence. Donc, quand c'est des exemples, quelqu'un qui n'a pas fait les tâches pendant 6 mois, on a des attentes qui sont plus au niveau des documents critiques. Alors que quand les tâches ne sont pas réalisées depuis plus de 12 mois, on va faire à ce moment-là une formation qui va être évidemment adaptée à l'expérience de la personne. Donc, on ne partira pas de zéro, mais il va quand même avoir une formation en bonne et due forme. Et
ce qu'il faut, nous, ce qu'on utilise, c'est les mêmes documents qu'on vous a présentés tantôt, les profils de formation ou les fiches de formation. On utilise le même document pour documenter cette partie-là. Puis, il y a vraiment des cases à cocher, là, que c'est adapté à l'expérience. Puis, on voit si c'est une documentation, une formation partielle ou complète, etc. Fait qu'on utilise le même document pour faciliter la vie.
Mais on a aussi un document en bonne forme, qui est le document pour le retour d'un employé, qui permet de l'avoir d'une manière standardisée. Donc, petit document très facile à adapter par les établissements, où on s'assure de certains éléments qui doivent être réévalués dépendamment de la durée de l'absence. Donc, exemple, accueil, sécurité, accès, bien, dès qu'on est parti 3 mois, on repasse à travers, alors qu'au niveau des mesures d'urgence, ça va s'appliquer uniquement quand quelqu'un est parti plus de 12 mois. Le SIM-10 s'applique à partir de 6 mois. Bien, je devrais vous voir un peu le tableau. Donc, une manière standardisée de gérer le retour des employés. L'autre élément, c'est évidemment l'évaluation des compétences en bonne forme. Ceux qui ont déjà suivi mes présentations se rappellent de mon bonhomme Allumette à grosse tête. Quand il est un technologiste, pour évaluer un technologiste ou un employé, il y a plusieurs façons d'évaluer les compétences au niveau ISO, au niveau du CAP, au niveau du CLSI. Bon, tous les différents organismes ont des manières d'évaluer les compétences. Et l'important, c'est d'être multifacetteur. Donc, dans un même travail, on peut soit observer un employé qui travaille directement. L'observation de procédures, l'observation de maintenance d'un appareil. On peut le regarder travailler avec des comparaisons, donc du matériel comme des contrôles externes de qualité, mais qui est donné dans un but d'évaluer les compétences. Ça peut aller jusqu'à l'évaluation de capacité de résolution de problèmes. Un problème en bonne et due forme, une question. On demande, dans telle situation, comment t'approches fait ça? On peut aussi évaluer la personne, l'employé, en faisant de la revue de documentation, soit un gramme, donc c'est la lame qu'on relie après, ou les feuilles de travail, est-ce qu'il a bien suivi l'algorithme nécessaire, ou aller jusqu'à la surveillance de résultats, on peut aller jusqu'à dans CrystalNet, si vous l'avez, ou les résultats finaux. Donc, il y a plusieurs façons. L'important, quand on évalue les compétences, on n'est pas obligé de tout faire, mais il faut déborder d'un seul aspect. Il faut en avoir plusieurs. Et au laboratoire, ici, on assure le maintien, le suivi des compétences en faisant souvent une pierre deux coups. Donc, par exemple, les audits techniques, on va y revenir dans la prochaine diapositive, servent à faire un audit en bonne forme, mais en même temps, le résultat va être versé au dossier de l'employé comme étant une évaluation de sa compétence. On fait aussi des contrôles de la compétence en bonne forme, donc comme un peu les contrôles des qualités externes, mais qui est donné à l'ensemble des employés qui font dans un secteur. Et là, à ce moment-là, on est capable de, on va mesurer ces résultats-là. Et les activités de formation, qui sont aussi un élément de maintien des compétences. Donc, si je fais une parenthèse, en juillet dernier, on avait parlé des audits internes, vous vous rappelez, quand on fait l'audit d'un secteur, et on avait à ce moment-là abordé l'audit technique, on avait dit qu'on y reviendrait. Bon, on y revient aujourd'hui. Donc, peut-être, Franck, je te laisserai peut-être décrire un peu c'est quoi un audit technique.
Oui. L'audit technique, ça va vraiment être le responsable de l'activité ou le coordonnateur, une personne qui est qualifiée finalement, qui va regarder un technicien faire la technique, principalement pour les étapes critiques. Là, on n'est pas obligé de passer au travers au complet, mais puis la personne va vraiment juger s'il y a des écarts entre la procédure et l'observation qu'elle va faire. Puis après ça, il va y avoir des constats. Puis les constats, c'est vraiment afin de documenter s'il y a des... on va les documenter en non-conformité, mais on va essayer de voir s'il y a une correction à faire au niveau de la procédure ou au niveau du technicien. Fait que c'est sûr que là, nous, on s'en sert aussi, vu que ça touche le technicien, on s'en sert aussi pour l'évaluation de la compétence. Fait que des fois, on fait juste réviser la procédure, puis parfois, on va vraiment plus corriger la personne, ajuster sa formation. Ça, c'est l'exemple de document, le FOGQ 006, qu'on utilise pour documenter, pour que ce soit aussi facile là, quand les gens regardent la procédure.
Donc, en ce sens-là, l'audit technique est vraiment une observation directe de l'employé. mais qui sert à la fois d'un point de vue technique et à la fois d'un côté employé. Donc, c'est une belle façon de faire, d'être plus efficace dans notre travail. À ce point-là, je voudrais juste faire une parenthèse qu'il faut faire attention avec les contrôles externes de qualité, comme exemple les contrôles que les SPQ envoient. C'est encore aussi, c'est mes bonhommes à limite. Quand un CEQ rentre dans un laboratoire, souvent, c'est un technologiste qui va le travailler. Même des fois, il va très bien le travailler parce qu'il sait que ça vient du SPQ. Il est inquiet. On met la meilleure technologiste là-dessus. Elle s'appelle souvent Sylvie. À travail, on a un succès. Tout le monde est content. Le laboratoire a passé. Par contre, évidemment, ça n'a pas évalué la compétence parce que dans le laboratoire, toutes les autres technologistes qui n'ont jamais touché à ce contrôle externe-là n'ont aucune compétence qui a été évaluée à ce côté-là. Et c'est souvent d'ailleurs la raison pour laquelle les évaluations de la compétence sont si importantes. C'est qu'on va chercher ceux qui sont plus à risque, des fois ceux qui sont un peu moins habitués, plutôt que d'avoir la technologiste, des fois, la meilleure qu'on a mis sur un contrôle externe, ce qui devrait d'ailleurs pas être le cas. Et c'est tellement important qu'en 2005, d'ailleurs, vous l'avez tous vu, dans les normes de gestion, une circulaire avait été publiée par le MES pour vraiment demander au laboratoire de répondre à la norme spécifique 1589 à ce sujet-là au niveau de contrôle de des compétences. De notre côté, le succès d'évaluation de la compétence repose quand même sur une ambiance. Une ambiance qui est très participative. On le met dans un contexte d'amélioration de la qualité. Et on énonce les objectifs, les critères d'évaluation aux technologistes avant d'aller plus loin. Et on permet aussi la préparation mentale et théorique. On n'est pas là pour quizzer quelqu'un un lundi matin. Il s'y attend pas. On l'observe. Évidemment, c'est pas correct. Ça crée du stress, parce que à ce moment-là, on n'a pas une vraie évaluation de la compétence. Donc, il ne faut pas tomber dans les associations négatives. Il faut avoir un programme d'évaluation des compétences qui est vraiment, faut le montrer d'un point de vue positif. Les contrôles de compétences n'ont pas besoin d'être faits sur une base annuelle. On les fait sur une, évidemment, avec un intervalle qu'on définit d'avance. Nous, au laboratoire, on s'assure d'avoir un cycle de 3 ans. Donc, sur 3 ans, tous les technologistes vont avoir une évaluation des compétences. Pour s'assurer du suivi, on s'est développé des petits outils qu'on pourrait facilement partager, où on a des noms qu'on a mis en bleu à gauche. Donc, Jacinthe a eu son contrôle, on est content pour elle. On les a mis en bleu dans le PowerPoint. Donc, on a le nombre de contrôles qu'ils ont eu dans leur année. Donc, en 2013, ils ont fait deux contrôles de compétences, la première personne en haut. En 2014, on en a fait un. En 2015, on en a fait deux. Donc, on suit un peu le nombre qu'ils font. Et on compile sur un cycle de 3 ans pour voir dans les 3 dernières années combien ils en ont fait. Et selon chaque secteur, les événements critiques, on s'assure d'un nombre suffisant sur un cycle de 3 ans. Donc, c'est un outil qui peut être, qui en est un, mais évidemment, tout outil pour suivre ça à votre saveur locale. L'autre élément du suivi des compétences, c'est que pour certains corps de métier, on demande, nous, en plus, d'avoir des heures d'activité de formation pertinentes. Par exemple, les assistants-chefs, les chefs technologistes, les directeurs adjoints ont des heures d'activité de formation continue à suivre. Et dans ce contexte-là aussi, on s'est fait des fichiers de suivi avec chaque employé pour être sûr d'atteindre le nombre d'heures. Donc, c'est pas l'employé, évidemment, doit rapporter. Donc, on fait signer les feuilles à chaque rencontre, puis on compile, mais on le fait quand même d'une manière centralisée. Le suivi de ces heures-là qui sont mis dans le dossier de l'employé au niveau de cet onglet-là. Donc, il ne faut pas oublier, on fait beaucoup de contrôles de compétences sur les technologistes, mais les gestionnaires, les agents administratifs, la réception, les assistants techniques doivent aussi avoir des contrôles de compétences. Et à ce moment-là, évidemment, c'est adapté à leur tâche. Donc, exemple, un aspect technique qui est attitré à la réception, ben on peut faire de la même façon de l'observation pour sa gestion des spécimens. on peut mettre une mise en situation avec un spécimen qui un spécimen a coulé dans la boîte, que ferais-tu, comment tu l'abordes, donc des mises en situation, de l'observation. Donc, aux yeux du zoo, il faut juste pas oublier, comme le petit Nicolas ici, qu'il n'y a pas seulement les technologistes, mais les autres employés de votre laboratoire. Bon. Donc, ça nous amène au quatrième pétale, le pétale de la performance. Donc, la performance, c'est pas une annonce de Viagra, là. Aux yeux du zoo, c'est s'assurer que les besoins du laboratoire, les besoins de l'employé, la qualité des prestations et les relations de travail soient adéquates. Donc, c'est pas juste une question de rendement, là. Il faut sortir des analyses. C'est un tout qui est en lien, quelque part, évidemment, avec le client. Il y a différentes façons de faire des revues de performance ou de rendement. Je pense que celle-là, c'était pas pire dans Dilbert. C'est faire une revue de performance, c'est pas juste demander à chaque employé qu'est-ce qu'ils ont fait de mal cette année, puis après ça, les mettre dans une revue en disant « t'as fait ça mal cette année ». Bel essai. Nous, on les approche, la performance, par des objectifs de secteur au laboratoire. Donc, par exemple, le secteur de la virologie, on les rencontre. La direction, les responsables d'activité dans le secteur, les coordonnateurs techniques et technologistes, et on va faire des objectifs un peu globaux qu'on va énumérer. D'avoir, ça peut être des objectifs en tout genre, on est très créatifs des fois. Et ces objectifs-là vont être évalués chaque année. Donc, ça permet d'avoir un peu une évaluation, un aspect d'évaluation de performance du secteur. Dans le secteur, on a un tableau de bord, donc on connaît nos nombres d'analyses hors délai, les analyses qui sont non concluantes, les plaintes, les non-conformités. Donc, ça peut faire partie aussi des objectifs et que le secteur peut améliorer. On a aussi des rencontres individuelles qu'on appelle, nous, les paris, qui sont les évaluations individuelles. J'oublie toujours le programme d'appréciation du rendement individuel. Merci. Je me comprends. Donc, le pari qui est une évaluation de la performance individuelle, c'est le nom local, dans lequel il y a un questionnaire assez global, et qui inclut, entre autres, l'évaluation de l'employé par le gestionnaire. Bon, si on a des contributions, tu mets à l'écran. Merci. Et, tu peux descendre. Il y a des éléments aussi même de climat de travail, de relations interpersonnelles. Aux yeux du zoo, j'allais dire le bonheur au travail, mais la santé et sécurité au travail. Entreprise en santé est un thème assez important. France, tu veux qu'on...
Non, c'est pas mal, c'est pas ça trop.
Ajouter sur la performance. Donc, le dernier aspect aux yeux de la norme sera au niveau du perfectionnement. Plusieurs façons d'atteindre une offre de perfectionnement des employés. La norme ISO demande qu'à ce qu'on mette à disposition du personnel un programme de formation continue. Et encore une fois, le personnel n'est pas juste un personnel technique, mais c'est tout personnel. Programme auquel le personnel doit participer et dont l'efficacité doit être revue. Il y a plusieurs façons de revoir l'efficacité d'un programme de formation continue. ISO demande aussi à ce que le personnel participe à des programmes réguliers de développement professionnel. Évidemment, là, ici, on est dans un aspect un peu différent parce que c'est pas le laboratoire qui doit le mettre à disposition, mais on doit favoriser la participation. Donc, la façon de distinguer un peu la formation continue et le développement professionnel, c'est une façon, la façon que je le vois, tu me corrigeras, c'est que la formation continue, c'est la formation qu'on donne, mais pour les besoins du labo. Donc, le technologiste, on voudrait qu'il soit meilleur, mais dans qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait des analyses. Alors, le développement professionnel, c'est la construction, c'est quand le personnel va améliorer ses qualifications. Donc, sans nécessairement être quelque chose qui va avoir une répercussion immédiate, on est ici dans les, entre guillemets, connaissances plus générales. Donc, on offre, nous, au laboratoire, plusieurs, ça, c'est des exemples de formation qu'on offre. Donc, on a des conférences midi, on participe en visioconférence. Il y a de plus en plus d'offres, donc c'est de se brancher sur qu'est-ce qu'il y a de disponible, comme entre autres les sites de microbiologie du Chute Québec, ben, sans surprise, on s'est branché, puis ça nous permet d'avoir une présence tous les jeudis midi, les technologistes qui veulent assistent à ces conférences-là et comptabilisent leurs heures de présence. On a, nous, des conférences, nous, américaines ou canadiennes, mais dans chacun des milieux des laboratoires, vous avez évidemment accès à différentes offres de conférences. Il y a aussi des présentations locales par des professionnels ou des médecins auxquels, évidemment, les technologistes peuvent assister. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez simple, et dans le plan des milieux hospitaliers, c'est probablement quelque chose de facile. Par contre, au niveau des grappes, probablement que c'est l'aspect téléconférence, visioconférence pourrait être amélioré afin que les technologistes qui sont dans des endroits plus reculés puissent avoir accès à cette offre-là aussi. On offre, évidemment, quand on fait des formations, comme en transport des matières dangereuses, des formations NC3, SIMZUT, on les met aussi dans les formations continues. Donc, c'est encore une fois, on est capable de faire avec une pierre plusieurs coups quand on y pense. Donc, c'est juste de réaliser ça. On ne réinvente pas la roue. Des démonstrations aussi, que ce soit peuvent être par des différentes personnes, des démonstrations techniques. La lecture de documents et le parrainage peuvent aussi être comptabilisés dans des types de formations. Là, on a ici un exemple de
pour documenter finalement la lecture de documents. C'est ça, c'est simple, les gens ont ça pour l'année, puis ils vont à toutes les fois écrire le document qu'ils ont lu. C'est juste que il y en a qui ont des logiciels pour ça, mais nous, le nôtre ne documente pas juste la lecture. Fait qu'à ce moment-là, on fait juste les écrire, on recueille ça à la fin de l'année, puis c'est versé au dossier de l'employé. Puis celui-là, c'est la formation. Attendez, je vais voir. Okay. C'est le fiche de formation, oui, c'est le même qu'on a vu tantôt. Okay, c'est bon.
Et donc ça, c'est les offres internes. Au niveau du développement professionnel, aux yeux ISO, c'est de le rendre, de pas l'empêcher, de faciliter ceux qui veulent assister. Nous, plus grand vendeur, c'est vraiment le congrès de l'OPTNQ. On a beaucoup de technologistes ici qui assistent. C'est un congrès annuel très évidemment intéressant. Puis ça permet évidemment pour leurs heures, ceux qui sont membres de l'ordre, nous ici, tout le monde est membre de l'ordre. Donc, c'est presque tout le monde, de comptabiliser leurs heures. Dans certains cas, ça va être des colloques spécialisés. Donc, une fois de temps en temps, des fois, un coordonnateur peut aller dans un congrès, exemple, de biologie moléculaire ou un congrès de mycologie, virologie. On est vraiment limité, comme vous, avec les déplacements. Donc, on est toujours dans des déplacements à l'intérieur de la province. On a très peu de déplacements hors Québec. Pour au niveau des technologistes, puis même des professionnels, c'est de plus en plus rare. Donc, une fois qu'on a fait le tour, c'est important d'avoir des enregistrements de tous ces aspects-là, donc de nos cinq pétales. Et là, je repasserai la parole à France là-dessus.
Oui, finalement, le dossier... Finalement, ça va être à un endroit ou à un autre. Là. Nous, c'est centralisé au même endroit, un dossier formation pour chaque personne au niveau des ressources humaines. Puis, c'est justement les enregistrements qui vont contenir le dossier. C'est vraiment la description de tâches, tout l'accueil et la formation initiale, puis toutes les formations aux tâches actuelles. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la personne va être formée sur des tâches, ça va être versé au fil des années, là, ça va être versé dans le dossier. C'est toujours actif. Il y a toute l'évaluation des compétences aussi qu'on peut joindre. La revue de la performance, toute la formation continue, puis il y a le volet aussi des accidents d'exposition puis l'immunisation. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez des documents qui sont centralisés, mettons, aux ressources humaines, lors de l'audit, il va falloir vous assurer que ces dossiers-là soient disponibles pour les auditeurs. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se promener dans les secteurs, vont regarder quelques personnes, vont auditer quelques personnes, puis ils vont prendre les noms. Après ça, ils vont se diriger au niveau du des ressources humaines ou à l'endroit seront localisés vos dossiers, puis ils vont les demander puis les consulter. Ils vont vraiment regarder là, si la personne est qualifiée pour la tâche qu'ils ont vue dans le laboratoire. Ils vont s'assurer qu'ils le retrouvent dans le dossier formation, etc. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que le personnel qui s'occupe de ces dossiers-là, si c'est à l'intérieur du labo, tant mieux. Mais si c'est moindrement un peu à l'extérieur, n'oubliez pas que ces personnels-là doivent être disponibles.
Merci. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, les quelques conseils ou suggestions bien humbles qu'on peut faire, c'est que au niveau de la qualification du personnel, c'est vraiment de consolider, pour vous, consolider Z, le suivi des compétences et probablement que d'implanter une revue de performance lorsque ce n'est pas encore fait. Ça n'a pas besoin de quelque chose de bien complexe, c'est d'initier quand même le processus d'évaluation de performance. Et d'avoir des enregistrements du personnel qui sont facilement accessibles. Comme l'a dit France tantôt, je le répète, c'est important. ISO ne demande pas à ce que vous ayez un dossier unique. Donc, vous pouvez avoir différents dossiers, un dossier au RH, un dossier au labo, un dossier à différents endroits, mais dans tous les cas, le dossier global doit être facilement accessible. Au niveau de la formation continue, évidemment, d'utiliser les ressources existantes. Moi, je crois beaucoup l'utilité de la visioconférence parce que ça permet de limiter le développement et je crois même qu'un développement partagé pourrait être probablement très, très utile pour tout le monde. Imaginez une situation où vous avez une espèce de calendrier, puis il y en a qui font des partages de formation. Ça permet évidemment de couper la tarte en beaucoup de petites pointes, donc beaucoup plus facile à digérer. C'est dur de digérer une tarte.
N'oubliez pas que les présentations qu'on fait depuis quelques semaines et encore pour quelques semaines, vous pouvez le documenter, ça va vous servir grandement pour le volet qualité, là, comme quoi vous avez participé à ces forums de discussion-là, ça va compter.
Oui, qui sont excellents. Non, c'est ça. Et au niveau du développement professionnel, ça va être de faciliter les possibilités pour ceux qui voudraient, par exemple, aller dans des congrès de l'OPTMQ ou autres endroits. Ça prend évidemment du temps pour bâtir un bon programme, notamment pour qu'est-ce qui est la compétence. Parce qu'un programme mal fait, vite fait, ne détecte pas l'incompétence. Il ne faut pas être extrême, mais il faut quand même bien penser à qu'est-ce qu'on, au programme qu'on développe. Et encore une fois, puis ça, c'est l'est probablement encore plus, c'est de prévoir les ressources pour administrer et maintenir le programme. Surtout quand vous savez faire des contrôles de compétences, des évaluations de la performance. Ça prend malheureusement du temps. On ne peut pas y parvenir facilement sans avoir des ressources, ne serait-ce que pour développer un programme. Une fois qu'on a développé un programme, bien, on peut le réutiliser d'une année à l'autre, là, ou avec des variantes. Donc, il y a la production du premier programme d'évaluation de la compétence. Mais l'administrer, hein, faire l'évaluer, les compiler, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer, c'est quand même assez time-consuming dans un gros laboratoire multisite. Comme vous avez à gérer. Donc, ça nous amène à la fin de la présentation. Donc, on va juste arrêter l'enregistrement BIS.